Hier, nous avons célébré la résurrection de Lazare. Dommage que vous ne puissiez pas être là. C'était l'office de la résurrection de la semaine. Aujourd'hui, ce n'est pas l'office de la résurrection. Et dans cette résurrection de Lazare, qui précède, qui entame, si je puis dire, le drame final de la vie résurrection du Christ, et qui, avec laquelle, fête avec laquelle nous commençons la célébration de la grande semaine, qui nous associe au mystère pascal, c'est-à-dire au mystère du passage en Christ de la vie d'ici-bas à la vie éternelle à travers la mort glorieuse. Cette résurrection de Lazare manifestait une réalité dont nous avons souvent peine à prendre conscience, c'est-à-dire que en ressuscitant Lazare, le Christ nous montrait, nous préparait à recevoir la résurrection, pas à concevoir, mais à réaliser que la résurrection n'était pas impossible. S'il était ressuscité directement, on ne l'aurait pas cru. Mais il a d'abord ressuscité Lazare, après avoir ressuscité le fils de la veuve de Naïm et deux ou trois autres. Et après que des prophètes aient aussi ressuscité quelques personnes, montrant ainsi que quand Dieu le veut, il dépasse les lois de la nature et la mort elle-même est vaincue. Vaincue provisoirement, Lazare est mort, il est ressuscité, mais il a fallu qu'il remeure, comme ça qu'on peut dire, qu'il meure de nouveau quelques années après. Seul le Christ est ressuscité et il n'est pas mort de nouveau. Seul et avec lui ou en lui, la Mère de Dieu, qui a suivi le même destin, et Saint Jean, l'évangéliste, et certainement quelques autres dont on a des témoignages dans les textes ecclésiastiques, c'est-à-dire les textes de l'Église, mais dont qu'on ne vénère pas d'une manière particulière. C'est mal exprimé, c'est pas ça que je voulais dire. Qu'il y a eu d'autres résurrections, d'autres ressuscitations, une résurrection définitive, c'est le Christ et la Mère de Dieu. Donc, en manifestant cette résurrection, il montrait que pour l'avenir, la résurrection était ouverte. C'était un espoir, c'était une espérance. Mais comme c'est lui, Christ, qui ressuscite Lazare, en même temps, celui qui est la résurrection, celui qui recrée, qui renouvelle la personne, étant présent, ça montre que c'était la réalité là, est une réalité d'aujourd'hui, une réalité présente, c'est-à-dire du temps présente quand Lazare était dans le tombeau. C'était la résurrection à venir. Je vous ai-je pas dit que ceux qui croient en moi verraient la résurrection et connaîtraient la vie éternelle, dit le Christ, mais il est la résurrection, donc c'est déjà accompli. Il ne reste plus qu'à le concrétiser, si je puis dire, avec la ressuscitation de Lazare. Et la deuxième chose, il y a beaucoup de thèmes qu'on pourrait aborder, pour cette fête de la résurrection de Lazare, mais il y en a un qui peut nous toucher particulièrement, c'est que depuis 2000 ans qu'on entend ça, ça passe presque inaperçu, ça nos habitudes. Mais justement, c'est là notre péché. Ces choses-là ne doivent pas être des habitudes. Ça doit être une réalisation quotidienne, un émerveillement et une volonté qui est la conversion, de nous associer à ces mystères-là, et pas simplement de les accepter comme une habitude, comme une théologie qu'on a appris plus ou moins dans le catéchisme, et que petit à petit, en grandissant et en mûrissant, on est censé approfondir quand ça nous intéresse. Cette réalité, c'est la suivante. Nous posons la question, ou nous devrions nous poser la question, qui est celui-ci? Qui est le Christ? Bien sûr, les évangiles donnent une réponse à cela. Mais il faut encore l'intégrer en qui est le Christ. Eh bien, quand on voit l'épisode de la résurrection de Lazare, il est dit dans les Saintes Écritures qu'il marche depuis Béthanie, vers Béthanie d'abord, où il ressuscite Lazare, puis après il marche encore jusqu'au mont des Oliviers et marche dans son entrée triomphale à Jérusalem. Il marche, et quand il est devant le tombeau de son ami Lazare, il pleure. C'est le signe même, ce sont les signes que Jésus est vraiment homme. Il a les mêmes... Il manifeste son humanité. Mais il ressuscite Lazare. Et s'il marche et s'il pleure en tant qu'homme, il ressuscite Lazare en tant que Dieu. Donc par cette fête-là, si nous entrons, si nous cherchons à entrer dans ce mystère, donc par la prière, nous contemplons la réalité. Est-ce que je vous dis encore un gros mot? Mais il faut bien que vous appreniez les gros mots. La réalité théandrique. Bien sûr, c'est des mots de tous les jours, ça. Théandrique. Théos, ça veut dire Dieu. Andros, ça veut dire... C'est pas les confitures de Brie. Andros, c'est l'homme. La réalité théandrique du Christ, c'est-à-dire que en la personne même de Jésus est à la fois Dieu et à la fois homme. Et cette fête est une de celles qui manifeste le plus cette réalité de la double nature du Christ. Parce que c'est facile, presque facile, de concevoir avec la théologie qu'une personne puisse vivre selon deux natures. Mais de réaliser l'union de ces deux natures, il n'y a que l'Esprit Saint qui ne peut nous le faire comprendre. Et ces fêtes comme celle-ci, comme celle d'hier, peuvent nous aider à pénétrer dans ce mystère, qui ne se comprend pas d'une manière seulement intellectuelle, seulement théologique, mais qui se vit au plus profond de nous-mêmes. Et si nous voulons découvrir le Christ, vivre le Christ, il faut que nous apprenions à nous associer à un tel point à sa vie qu'elle devienne notre vie. Que ce soit nous qui soyons, non pas des Christ pour le remplacer, mais qui soyons tellement unis à lui par notre volonté et par notre conversion, si humble soit-elle, et si pécheur que nous restions, hélas, mais ça fait partie de notre nature humaine, qui revient à Dieu simplement de ressusciter dans sa forme première, c'est-à-dire de purifier et de lui retrouver la gloire qui était la sienne avant que nous ne tombions dans le péché. C'est donc par cette méditation, par cette orientation de notre vie à vouloir nous assimiler ou nous laisser assimiler, parce que ce n'est pas de notre pouvoir, mais on peut s'y préparer à la vie du Christ. Vivre le Christ, c'est le connaître, mais c'est aussi partager avec lui ce qui est sa vie. Parce que lui a partagé ce qui est notre vie. Et ainsi, nous apprenons à ne faire qu'un. Et si nous voulons connaître, comprendre un peu la théandrie de Jésus, il faut que nous-mêmes, nous apprenions à vivre dans nos personnes, dans chacune de nos personnes, cette union entre notre nature humaine, fut-elle déchue, avec la nature divine qui est celle du Christ. Et cette mémoire célébrée hier nous amène directement dans la contemplation de la fête d'aujourd'hui, les palmes, l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem. Notez que comme Lazare est ressuscité, mais qu'il a dû mourir de nouveau en attendant la résurrection finale, de la même manière, le Christ entre triomphalement à Jérusalem, accompagné par les fils de Jacob, par les Hébreux, les enfants des Hébreux, c'est-à-dire les descendants de Jacob, et par nous-mêmes avec nos palmes, et nos palmes étant des palmes intérieures, pas simplement les palmes que l'on tient à la main, que vous tenez à la main, et qui ne sont que l'image d'autres palmes, c'est-à-dire de la croix que nous portons en nous-mêmes et qui fleurit, qui devient un objet de glorification, parce que la croix elle-même consiste à porter toutes les lourdeurs, toutes les déchéances de notre vie, mais de les porter avec amour et avec joie en Christ, en lui. Donc cette entrée à Jérusalem est une entrée provisoire. Il est accompagné par les descendants de Jacob qui chantent « Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Bien sûr, ils chantent ça avec eux. N'empêche que dès le lendemain, ils vont tous se retourner, et on va tous se retourner contre lui, l'abandonner et le laisser crucifier ou le crucifier nous-mêmes, car chacune de nos trahisons, chacune d'acceptations de nos passions, chacun de nos reniements sont une véritable crucifixion que l'on inflige au-delà du temps au Christ. Donc comme Lazare est ressuscité provisoirement, le Christ entre triomphalement, provisoirement à Jérusalem pour assumer après la mort par la crucifixion, avant de ressusciter et d'être élevé en gloire dans le royaume, dans la gloire de son Père, gloire qui a toujours été la sienne, mais dont il a renoncé à l'exercice le temps où il était physiquement présent sur terre pour se faire en totalité homme avec les hommes. Et cette réalité-là, ce mystère-là, parce que mystère et réalité, j'allais dire, à un certain niveau, c'est synonyme. Les lectures de l'Ancien Testament que nous avons entendues hier soir au Vêpres, c'est-à-dire hier midi, hier soir, je ne me trompe pas, hein. Je retiens, parmi elles, je retiens la seconde lecture, la lecture du prophète Sophonie, que je vous reprends à peu près intégralement en l'interrompant par des analyses que j'espère brèves. Mais je ne peux pas vous le garantir. Étant donné que la liturgie aujourd'hui a été très courte, j'ai le loisir de pouvoir rallonger l'homélie autant. Ce serait quand même pas drôle que vous vous retrouviez trop rapidement à la maison. Ainsi parle le Seigneur. quand, ou on traduit autrement, oracle du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur quand on vous entend. Vous lisez ça dans l'Ancien Testament. Ça veut dire que c'est le Seigneur lui-même qui parle et sa parole est éternelle. C'est-à-dire, quand on dit oracle du Seigneur, c'est la parole que le Seigneur adresse aujourd'hui à chacun d'entre nous. Donc, c'est à comprendre comment ça nous interpelle, comment, qu'est-ce qu'il veut nous dire. Eh bien, voilà ce qu'il veut nous dire. Réjouis-toi. Ben, ça commence bien. Réjouis-toi. Ça, c'est l'écho d'un rire, d'un éclat de rire qui vient du début de l'Ancien Testament. Lorsque les trois anges figurant la Sainte Trinité sont apparus à Abraham, Isaac, et Abraham et Sarah. Merci. Il était vieux, trop vieux pour avoir des enfants, et l'ange leur promet que dans un an, quand ils repasseront, Sarah aurait un fils. Et là, Sarah se met à rire. Bêtement, on interprète quelquefois ce rire comme un rire de doute. À l'âge que j'ai, comme si je pouvais encore avoir des enfants. C'est pas ça. Le rire de Sarah, c'est la réjouissance intérieure de savoir qu'enfin va être donné au monde celui qui est attendu depuis les origines et dont on est séparé depuis à cause du péché originel. C'est le début de la réalisation de la promesse faite à Abraham que de lui sortirait un rejeton et une descendance qui serait plus nombreuse que le sable de la mer. C'est dire. Et se réjouis-toi, par exemple, ce rire de Sarah se répercute une multitude de fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Et à chaque fois qu'il y a « réjouis-toi », c'est toujours le rappel, la reparticipation, si je peux dire, l'écho de ce rire de Sarah, de cette réjouissance de l'humanité qui, enfin, malgré sa stérilité due au péché, va enfin donner naissance à celui qui la sauve, à son sauveur même, c'est-à-dire d'abord à Isaac, puis Jacob et tous les patriarches de l'Ancien Testament, et puis finalement le Christ et avec lui nous-mêmes. Réjouis-toi grandement, fille de Sion. Fille de Sion, Sion c'était la colline à Jérusalem qui était le lieu des palais royaux du temps de David. La fille de Sion, c'est donc les descendants, si vous voulez, de la maison royale de Jérusalem. Donc ça signifie finalement l'Église, la nouvelle Église. La première assemblée était ce qu'on appelle la synagogue dans l'Ancien Testament. Et maintenant, avec la venue du Sauveur, c'est une nouvelle création à laquelle nous participons. Et l'assemblée nouvelle, ce n'est plus la synagogue, c'est l'Église, temple, véritable temple de Dieu. Réjouis-toi grandement, c'est-à-dire, oh, c'est sans limite. Réjouis-toi sans ombre. Ça, c'est moi qui transpose comme ça. Mais réjouis-toi sans limite, fille de Sion. Proclame-le, fille de Jérusalem. Fille de Jérusalem, vous comprenez que c'est la même signification. Sois dans la joie et exulte dans ton cœur, fille de Jérusalem. Mais où est la fille de Jérusalem? Vous ne l'avez jamais vue? Moi, je la vois sous mes yeux. La fille de Jérusalem, c'est vous. Et moi avec vous, j'espère. Mais la fille de Jérusalem, c'est l'Église. C'est tous ceux qui, par la foi, consciemment par la foi ou inconsciemment par des voies que nous ne connaissons pas, attendent, veulent, s'associent à ce qu'on appelle le salut, c'est-à-dire notre restauration par le seul qui pouvait l'accomplir, c'est-à-dire par le prototype qui est le Christ, Dieu et homme, pour remouler, reformer, recréer l'humanité qui a perdu ses prérogatives par ses mauvais choix. Donc, sois dans la joie, exulte de tout ton cœur, c'est-à-dire, non pas réjouis-toi un petit peu, mais de tout ton cœur, en plénitude, réjouis-toi. C'est-à-dire, réjouis-toi sans ombre. Le Seigneur a enlevé complètement tes injustices. Ou, on peut traduire aussi, le Seigneur a enlevé complètement tes iniquités. Vous vous sentez pécheur? Vous vous sentez trahir le Christ? Vous sentez l'absence, vous souffrez de l'absence du Christ, de l'absence du royaume? Vous attendez ce royaume, comme nous l'avions chanté avec les lamentations d'Adam le soir du pardon. Ô mon paradis, où est mon paradis? Vous vous sentez exilé, mais cet exil-là, il est terminé. C'est fini, nous ne sommes plus en exil. Mais comme pour Lazare, nous ne sommes plus nécessairement encore. Il y a les deux à la fois. Nous savons, le salut, ça c'est une déviation professionnelle, le salut nous est effectivement accordé, nous sommes déjà ressuscité et nous participons déjà à la vie éternelle, et pourtant, en même temps, et là je ne veux pas faire de politique, mais en même temps, nous sommes associés, nous devons assumer aussi, jusqu'à ces dernières limites, les conséquences de notre chute, conséquences qui nous amènent à l'impression de l'absence de Dieu, allant jusqu'à la mort, qui nous laisse simplement l'espérance de la résurrection. Mais cette espérance-là, elle est déjà comblée. Elle n'est pas simplement une expérience. Elle est une expérience. Par la liturgie, par nos communions, qui est une communion, par notre prière, par notre foi, par la conscience de qui est le Christ et de comment il vit parmi nous et comment nous sommes avec lui, nous avons déjà l'expérience de la résurrection et de la vie éternelle. Vous n'avez pas vu ça? Mais la liturgie que vous avez vécue, que nous avons vécue tout à l'heure, mais c'était une fenêtre grande ouverte sur le royaume des cieux. Nous avons vu la gloire de Dieu. Ah, à travers des symboles, à travers des odeurs, à travers des lumières, à travers des couleurs, à travers des signes humains. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes encore dans ce monde humain. Mais si nous sommes déjà dans ce monde surhumain que le royaume des cieux. Mais si nous avons les yeux qui s'ouvrent, nous voyons humblement. Et je ne vous parle pas de vision extraordinaire, mais nous voyons à travers cette liturgie, nous voyons la gloire de Dieu, comment elle illumine le monde. Et comment, à travers cela, nous remplissons et nous transformons de jour en jour, de semaine et d'année en année, nous faisons mûrir dans l'illumination qui nous est accordée. Il nous revient, nous, d'être missionnaires et de répandre ça à travers le monde entier. Non pas en allant proclamer, en faisant avec la croix et la bannière, et voir le glaive, les nations païennes ou nos voisins pour les forcer à croire, mais en leur faisant participer j'allais dire, malgré eux, ou malgré leur inconscience, les faire participer à cette gloire divine que nous leur montrons, que nous devons leur montrer à travers l'amour que nous avons reçu dans cette vision du royaume et que nous faisons nôtre, cet amour-là que nous faisons nôtre pour le leur communiquer et leur faire partager. Donc, le Seigneur t'a délivré de toutes tes iniquités. Le roi d'Israël, le Seigneur, est au milieu de toi. Pourquoi cette allusion, cette prophétie? Le roi d'Israël, les palmes, la procession, l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem l'intronise comme véritable roi d'Israël. Dans l'Ancien Testament, les rois d'Israël étaient intronisés en entrant triomphalement avec des fanfares, avec des chants et des danses et des processions jusque autour de l'autel, dont ils devaient embrasser les angles qu'on appelle les cornes de l'autel. Et là, le Christ, lui, comme tous les rois d'Israël, le Christ va jusqu'au temple, dont il est chassé presque immédiatement, puisqu'il va subir après ça. N'empêche qu'il est intronisé comme roi d'Israël. C'est-à-dire, comme et l'Israël nouveau, c'est comme je vous disais en commençant, c'est l'Église. Donc le Seigneur est au milieu de toi. Il n'est pas seulement celui qui vient, il est celui qui est là. Il est là et il doit encore venir. Toute l'ambiguïté de notre foi, c'est cela d'être déjà et encore. Où on n'est plus. On est encore. On est dans le temps présent, mais on assume à la fois le passé et à la fois l'avenir. Nous avons la nostalgie du paradis. Nous sommes dans la vallée des larmes et nous souffrons, nous peinons, nous chutons et le Seigneur nous relève et nous sommes déjà en même temps dans le nouveau paradis bien supérieur au premier paradis. C'est l'aboutissement de la volonté divine de créer le monde par amour, de le faire participer à cet amour. Tu ne verras plus aucun malheur. Ça ne vous encourage pas, ça? N'ayez pas peur, quoi qu'il vous arrive. Et puisque le Seigneur vous a enlevé vos iniquités, il n'y a plus aucun malheur qui puisse vous attacher, ou qui puisse vous accabler. Pardon. En ce temps-là, le Seigneur dira à Jérusalem, c'est-à-dire à nous, qui sommes la véritable Jérusalem, « Aie confiance, Sion, que tes mains ne se relâchent pas. Le Seigneur ton Dieu est puissant. » Et le prophète ajoute, « est puissant en toi. » C'est pas que le Seigneur est puissant et puis tu n'as rien à voir avec. Mais non, c'est en toi, en chacun des membres de l'unique Israël. C'est à chacun de nous, corps du Christ, que le Seigneur est puissant. Aucun de nous ne sommes puissants par nous-mêmes. Mais c'est le Seigneur qui vit en nous, qui lui est puissant et qui change à travers notre manière d'assumer notre condition humaine dans sa chute et dans son relèvement. Le Seigneur manifeste sa puissance. Il montre la victoire de la vie sur la mort, de la vie éternelle sur la mort. Il montre la victoire du pardon sur les péchés, sur les iniquités. Mais comme j'ai eu l'occasion de vous le dire plusieurs fois pendant le carême, nos péchés ne sont pas considérés comme les fautes que nous commettons au jour le jour, même les plus graves. C'est notre condition pécheresse. C'est notre abandon de Dieu, c'est notre oubli de Dieu, c'est ça qui est le péché. Et les autres péchés, nos mensonges, nos gourmandises et nos adultères, ce n'est que une manière individuelle de manifester cette déchéance. Le Seigneur Dieu, donc, est puissant en toi. Il te sauvera. Il ramènera sur toi la joie, car le salut, qu'est-ce que le salut ? C'est de reparticiper, de ressentir, c'est-à-dire de sentir de nouveau la joie de la gloire de Dieu, celle que nous avons vue tout à l'heure et qui, j'espère, demeure dans votre cœur tout de suite et pourtant tout le reste de votre vie. Il te renouvellera en son affection. C'est-à-dire que par son affection, c'est son amour. Le Seigneur nous renouvelle, il nous ressuscite, il nous redonne non seulement la résurrection après de la mort, mais alors que notre vie sur terre est une vie mortelle, fondamentalement mortelle, puisqu'elle est une vie sans Dieu à cause de notre péché. Mais dans cette vie-là, il nous donne déjà sa vie éternelle. Il nous renouvelle véritablement en son amour. Il fera éclater sa joie à ton sujet, dit le prophète à Sion, comme en un jour de fête. Et je rassemblerai ceux des tiens qui ont été brisés. Qui sont brisés ? Évidemment, ce sont les membres de l'Église qui sont brisés par le péché, si vous voulez, c'est-à-dire nous tous, chacun à notre manière. Mais c'est en nous-mêmes, en chacune de nos personnes, c'est ce qui en nous est détruit, notre volonté, notre incompréhension, nos méchancetés sous toutes ces formes, nos haines, nos jalousies, nos volontés de pouvoir, tout ça, c'est quelque chose de notre nature, quelque chose de nous-mêmes qui est brisé. Et c'est ces brisures-là que le Seigneur, par la résurrection, prend et réassocie, réoriente, unifie, de manière à ce que notre être, notre cœur, à chacun de nous, retrouve sa beauté et son homogénéité primordiale. Et je rassemblerai donc ceux des tiens qui ont été brisés. Malheur! Qui a amené l'outrage sur elle? Évidemment, qui? C'est le démon et les démons, ce diable et les démons. Eh bien, malheur à lui, le démon, lui. Les ténèbres qui sont les siennes n'ont pas de pouvoir sur la lumière que le Seigneur nous amène. Voici ce que je ferai en toi encore, en ce temps-là, dit le Seigneur. Je sauverai l'opprimé et j'accueillerai la rejetée. Vous ne vous sentez pas opprimé par vos passions? Nous, je devrais dire nous, évidemment, hein, comprenez-le bien dans ce sens-là. Nous ne sommes pas opprimés, incapables de nous retourner vers Dieu et de nous convertir véritablement. N'avons-nous pas l'impression d'être rejetés de ce paradis comme Adam en souffrait et incapable d'y pénétrer de nouveau par nous-mêmes? Mais je les établirai je les rétablirai, tout ça, toutes nos personnes, je les rétablirai dans la réjouissance, dans l'exultation, dans le paradis, autrement dit. Et j'étendrai leur renommée sur toute la terre, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est par la réalisation dans la foi de tout ce mystère-là que nous pouvons en témoigner aux yeux du monde et que nous pouvons perpétuer dans le monde la réalité du salut. Par notre existence, pas par nos discours, même pas par notre exemple, car nous ne sommes pas exemplaires, mais simplement par notre situation, notre condition sacerdotale, notre condition de prêtre qui nous fait avoir les pieds sur terre et vivre avec tout le monde et comme tout le monde, mais en même temps de faire le lien avec le ciel dont nous avons la vision et l'expérience, de manière à ce que tous participent consciemment ou inconsciemment à cette gloire divine. À lui soit la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.
Amen.